Slate Podcast.
You are nothing, Chancellor.
You never say thank you.
That's what the money is for.
Winter is coming.
The danger. I am the one who knocks.
I think that I may be the voice of my generation.
Suit up.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve mon rayon de soleil de tous les jours, Marie Telling.
Waouh, vraiment?
Bah ouais, je sais pas.
Ok, merci.
Un coach de foot extrêmement positif, des jeux de mots irrésistiblement nazes et même un caméo de Thierry Henry. Vous l'avez peut-être compris, cette semaine, on vous parle de la comédie du moment, Ted Lasso, diffusée sur Apple TV+. La série a gagné nos cœurs un peu par surprise avec sa première saison l'année dernière. Et elle a le vent en poupe puisqu'elle vient de rafler une flopée d'Emmy Awards, dont celui de la meilleure série comique.
Qu'est-ce qui fait le charme de Ted Lasso et est-ce que cette deuxième saison qui vient de s'achever est à la hauteur de la première? On en parle dans cet épisode.
Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, quel est ton pic cette semaine?
Mon pic, c'est un podcast de France Culture qui s'appelle La Filière. Donc le pitch, c'est Philippe Sands, qui est un avocat spécialiste dans les crimes de guerre, qui est aussi le descendant d'une famille qui a été exterminée pendant la Seconde Guerre mondiale dans la Shoah. Et cet avocat a retrouvé le fils du dignitaire nazi qui était derrière les meurtres de sa famille. Et en fait, il entretient une sorte d'amitié depuis une dizaine d'années avec le fils donc de Otto Werther. Et il va le voir et on entend leur conversation. Et en même temps, il essaie de retracer l'histoire parce que ce qui se passe, c'est que ce fils est très sympathique au demeurant, mais en même temps ne reconnaît pas du tout la culpabilité de son père, dont il pense vraiment qu'il n'était pas du tout responsable des crimes de guerre et des exactions commises par les nazis et qui était juste un peu un suiveur et qui en plus a eu une très belle histoire d'amour avec sa mère. Donc forcément, c'était un homme parfait. Et on a un peu la version donc de ce fils et en même temps celle de Philippe Sands qui lui retrace à travers des documents historiques tout le parcours de ce nazi et c'est absolument passionnant. C'est en 10 épisodes et vraiment je recommande très très chaudement ce podcast. Et toi Anaïs, c'est quoi ton pic?
Moi mon pic c'est l'acteur Zach Guilford que vous connaissez peut-être parce qu'il a incarné Matt Saracen dans Friday Night Lights.
Hein?
Donc c'était vraiment le choupi qui était voilà un nouveau joueur de football un peu timide qu'on avait envie de prendre dans ses bras un peu pendant toute la série. Et maintenant, c'est devenu un trentenaire poivre et sel qui joue dans la nouvelle série Netflix de Mike Flanagan qui avait fait The Haunting of Hill House. Et donc cette nouvelle série s'appelle Midnight Mass. C'est encore une série horrifique, encore avec des thèmes sur le deuil, le pardon, la culpabilité, etc. Donc c'est encore une fois assez lyrique. Et donc, Zach Guilford incarne un mec qui a tué une fille quand il conduisait en étant bourré, qui a passé plusieurs années en prison, qui sort de prison et qui retourne sur la petite île de 100 habitants où vivent ses parents. Et il commence à se produire des choses assez inquiétantes sur l'île. Et je suis vraiment hyper contente de retrouver cet acteur parce qu'il me plaisait beaucoup dans Friday Night Lights. J'ai pas trop suivi sa carrière depuis et là, ça m'a fait bizarre de le voir dans un rôle d'adulte, en fait. Mais j'ai vu qu'il avait 39 ans, donc visiblement, il serait temps. Et il est vraiment impressionnant et la série globalement est très très bien. Il y a énormément de monologues donc c'est vraiment, ça doit être un plaisir pour les acteurs de jouer dedans. J'ai pas encore tout vu donc je peux pas vous la recommander à 100% parce que j'essaye de ne pas la binger, mais pour l'instant je la trouve géniale et je suis très contente d'avoir à nouveau Zach Guilford dans ma vie. Et cette semaine on parle d'une série beaucoup plus douce que Midnight Mass. C'était Ted Lasso, une comédie diffusée sur Apple TV+, qui en est à sa deuxième saison. Comme tu l'as dit, Marie, la deuxième saison vient de se terminer. Alors, est-ce que tu peux nous résumer rapidement de quoi parle Ted Lasso?
Alors, Ted Lasso, c'est l'histoire d'un coach de football américain qui est joué par Jason Sudeikis, qui est connu surtout pour sa participation à Saturday Night Live pendant des années, il y a déjà quelques années d'ailleurs. Ce coach de football américain est recruté pour coacher une équipe de football anglais, alors qu'il n'y connaît absolument rien. Et quand on le rencontre, on a l'impression que c'est un peu un idiot très sympathique. Et on se rend compte au fil des épisodes qu'il est bien plus intelligent qu'il y paraît, qu'il est juste extrêmement enthousiaste et toujours là pour dire des choses très très gentilles. Et au fur et à mesure, on apprend qu'il a été recruté parce que celle qui est propriétaire du club de foot essaie de couler le club parce que c'est celui de son ex-mari. Mais il va un peu remporter l'affection en fait de tout le monde autour de lui par juste sa gentillesse et son entrain, quoi.
Et son optimisme à toute épreuve.
Voilà.
This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso.
You're an American who's now in charge of a football club, despite possessing very little knowledge of the game.
Oh! I know that AFC Richmond is going to give you everything they got, win or lose.
Did you see that?
He must be from England, yeah. Wales. Is that another country?
Yes and no.
How many countries are in this country?
Four.
Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way. Welcome to England.
La série a commencé assez discrètement. En plus, elle était sur Apple TV, qui n'était pas non plus une plateforme très sollicitée.
Oui, surtout qu'elle est sortie vraiment au tout début d'Apple TV.
Voilà, c'est ça. C'était le début de leur offre. Et en fait, grâce au bouche à oreille, la série a commencé à gagner en popularité et a vraiment explosé. Maintenant, on l'a vu pour la saison 2. Ça m'a un peu rappelé Succession, où au début, personne n'en parlait pendant la saison 1. Et puis là, c'est devenu une espèce de raz-de-marée. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que la série est sortie quand même en pleine pandémie, c'était il y a un an, en septembre 2020, donc vraiment, on en avait tous déjà un peu marre. Et cet optimisme à toute épreuve, je pense qu'il a fait beaucoup de bien aux gens qui ont regardé la série à ce moment-là et que ça a contribué au succès de la série, en fait, de voir juste quelque chose de très bisounours, hein, on va pas se mentir, où en fait, tout le monde est irrité par son optimisme à Ted. Nous aussi, en tant que spectateurs, on est irrité et plus la série avance, plus on se laisse conquérir par sa gentillesse et sa bonne humeur, comme les personnages de la série. Et ça fonctionnait hyper bien de voir ça à ce moment-là, je pense.
C'est bisounours, mais il faut dire que c'est vraiment pas bête, en fait. Et je pense que c'est ça aussi. Souvent, on se tourne vers des programmes qui peuvent être réconfortants, mais qui sont un peu vides de sens, qui sont des plaisirs coupables. Et là, c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que c'est très bien écrit. Il y a des thèmes qui se développent au fur et à mesure des épisodes et des saisons qui sont assez profonds. Et c'est très réconfortant, mais en même temps aussi pas du tout insultant intellectuellement, au contraire.
Ouais, c'est ça, et sans être édulcoré, parce que, par exemple, Ted Lasso fait des crises d'angoisse, c'est quelque chose qu'on découvre assez tôt dans la saison 1, et ça reste un petit peu un fil conducteur de la série, mais de manière assez discrète au début, mais justement, ça vient un peu contrer l'argument que c'est juste une série bisounours où tout le monde s'entend bien et où tout le monde est heureux, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de problèmes et de conflits au sein de la série, et comme tu le disais, ce qui marchait très très bien dans cette saison 1, c'était aussi la réflexion sur la masculinité, puisque c'est quand même une série avec une majorité de personnages masculins, puisque c'est un club de foot, et en fait, on a Ted Lasso qui va venir incarner un autre type de masculinité beaucoup plus douce que celle qu'on a l'habitude de voir à l'écran, surtout avec les anti-héros, on en a déjà beaucoup parlé, les anti-héros de Breaking Bad, de Mad Men, etc. Et là, on a quelqu'un de très gentil, très souriant, très doux.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un des milieux les plus masculins qui soit, c'est-à-dire qu'on est littéralement dans un vestiaire de club de foot. Donc, c'est des hommes avec toute leur testostérone et tout leur ego qui refusent en règle générale d'exprimer quelque émotion qu'il soit parce que c'est à l'encontre de leur idée de la masculinité. Et on a Ted Lasso qui est là, qui arrive avec son grand sourire, qui les encourage à pleurer, à se livrer, qui les réconforte.
I promise you, there is something worse out there than being sad, and that is being alone and being sad. Ain't nobody in this room alone.
Qui fait ses propres biscuits le matin, qui les emmène à sa bosse, et qui en même temps est quelqu'un de masculin. Quand on le voit arriver, il fait un peu bonnet, mais il fait bonnet du Midwest américain avec sa grosse moustache. Il a une vie de famille qui, au final, bon, il est en plein divorce, mais c'est un très bon père, qui a été, on sent aussi, un très bon mari, qui séduit les femmes aussi à travers la série. Il plaît à plusieurs femmes et il a une aventure avec un des personnages secondaires. Donc vraiment, il incarne une masculinité qui fonctionne très bien et qui un peu convertit tous ces hommes très machos autour de lui.
Exactement.
Et en plus, à travers lui, on découvre d'autres faille de ces hommes-là. Il y a un personnage qui, moi, est mon préféré, c'est Roy Kent.
C'est le préféré de tout le monde.
Oui, c'est vrai, je ne suis pas très originale. Mais j'en ai parlé la semaine dernière dans mon pic, mais c'est... En fait, c'est un footballeur qui ne fait que dire « fuck », qui parle avec une voix très, très grave.
Qui fait que grogner.
Ouais, il grogne tout le temps, littéralement. Il est magnifiquement poilu du torse. On dirait un ours bourru, quoi.
Roy Kent's been the best player on every team he's been on since he was a kid. I like being Roy Kent. I don't know if I can handle just being some loser has been called Roy. All right, Roy. Yeah. What have you been up to? Fuck all.
Et en même temps, on se rend compte que c'est le mec le plus gentil et généreux qui soit, mais juste, il faut pas l'emmerder, quoi.
Ouais, et qui est très sensible. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un peu une bataille d'ego entre lui et Jamie Tartt, qui est un peu le gros connard de la saison 1, qui est tout le cliché du footballeur macho, pas très intelligent, ouais, voilà.
Qui s'aime énormément, surtout.
Voilà. Mais à qui on va aussi trouver des profondeurs et en fait, qui devient de plus en plus attachant. Et c'est ça qui est génial avec la série, c'est que tous ces personnages masculins, ils sont extrêmement bien construits et ils deviennent tous très attachants alors qu'on a un peu tout le spectre du machisme en fait dans l'équipe. Il y a Jamie Tartt où bah, il y a le Jamie Tartt. Il y a Roy Kent aussi qui a son propre chant. Il y a...
He's here, he's there, he's everything.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est les chants des supporters, en fait, qui accueillent à chaque fois les joueurs dans le stade. Et ce qui est très malin avec la série, c'est que grâce à tous ces petits chants, à tous ces petits marqueurs, en fait, elle crée des personnages qui sont immédiatement identifiables, qui ont tous un petit peu leur gimmick, en fait. Et il y a même Trent Crimm, qui n'est pas un joueur de foot, mais qui est le journaliste. Voilà, Trent Crimm from The Independent, qui se présente à chaque fois, alors que tout le monde sait que c'est Trent Crimm from The Independent. Ça rappelle un peu les journalistes dans Parks and Rec, en fait, qui étaient juste là pour la blague. Mais même lui, il est assez bien développé au final. Et c'est vraiment une collection très rare de personnages masculins, tous très différents, très attachants, uniques et avec voilà, un spectre de sensibilité quand même assez incroyable.
On parle beaucoup des personnages masculins parce que c'est vraiment une série sur la masculinité, mais il y a aussi des personnages féminins très cool. Il n'y en a pas énormément dans la série, mais elles sont très présentes. Il y en a deux vraiment qui sont centrales. C'est Rebecca, donc c'est la propriétaire du club de foot, donc celle qui veut couler à la base le club de foot, qui est absolument magnifique.
Qui est jouée par Anna Waddingham, qui jouait la Shannon dans Game of Thrones.
Et alors, elle est méconnaissable. En fait, c'est une bombe, cette meuf. Elle est incroyable. Ouais. Elle est blonde avec un corps absolument magnifique. Et elle, elle est très blessée par son divorce. Elle est vraiment dans la vengeance et elle va aussi s'adoucir et on va la découvrir au fur et à mesure des épisodes. Et c'est un personnage très charmant, très attachant et assez complexe au final au niveau de ses motivations et de ce qui la caractérise.
D'ailleurs, fun fact, son ex-mari est joué par Rupert Giles de Buffy.
Et oui, donc Anthony Head de son vrai nom, qui là est horrible, alors que dans Buffy, c'est le mec le plus sympa du monde. Mais là, vraiment, c'est le seul vrai salaud de la série qui, pour le coup, est vraiment le méchant, quoi.
C'est ça. Et l'autre personnage féminin qui est, moi, un de mes préférés, c'est Killy, qui est jouée par Juno Temple, qui est vraiment une actrice extraordinaire. Elle est présentée au début un peu comme une bimbo. Elle sort avec Jamie Tartt, qui est le joueur de foot un peu con. Elle est un peu célèbre, mais on ne sait pas trop pourquoi.
C'est surtout qu'en Grande-Bretagne, en fait, il y a toute une culture des femmes de footballeurs et des meufs de footballeurs. Et elles représentent vraiment ça, parce qu'il y a même des télé-réalités autour de ça. Et elles sont toutes complètement superficielles et obsédées par les fringues et par, justement, leur image sur Instagram, quoi. Donc, elle incarne vraiment ça.
Voilà, et elle dit à un moment, je suis célèbre pour avoir été presque célèbre. Et elle est toujours perchée sur des talons aiguilles. Elle porte des imprimés léopard. Elle est bling-bling de la tête aux pieds. What would you rather be, a lion or a panda? I don't have time for this. Okay. Ted? Gotta go panda. Are you mad? Pandas are fat and lazy and have piss-stained fur. Lions are powerful and majestic and rule the jungle. The answer is lion. All right. That Rebecca is an intimidating, very tall woman. I mean... The minute she locked eyes with me, I like started sweating. Oh no, you know, she got some fence all right, but he's gotta hop over. Et en fait, un peu comme Ted Lasso et comme beaucoup des personnages de la série, on réalise assez vite qu'en fait, elle est très intelligente, qu'elle a beaucoup de profondeur et il va y avoir une tension sexuelle qui va se développer entre elle et Roy Kent, voilà, qui est un peu plus sensible, un peu plus intelligent que Jamie Tartt. Et ça aussi, c'est ce qui faisait vraiment la saveur de la saison 1, c'était cette tension sexuelle et ce will they, won't they, dont on aime souvent parler et qui là était très réussi.
Oui, c'est vrai et c'est vraiment très réussi grâce aux dialogues aussi qui sont hyper bien écrits, c'est ciselé. En même temps, ce que tu as dit au début est c'est-à-dire qu'il y a plein de jeux de mots vraiment nuls, mais délicieux dans leur nullité. Et il y a aussi juste des punchlines qui sont vraiment très, très drôles. Il y a un moment où on demande à Ted Lasso s'il croit aux fantômes et il dit non, mais j'espère qu'eux, ils croient en eux.
Do you believe in ghosts, Ted?
I do. But more importantly, I think they need to believe in themselves.
C'est un humour tellement gentil. Et c'est, en fait, c'est ça qui est incroyable aussi dans la série. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a très bien fonctionné. C'est parce qu'on est habitué à de l'humour très méchant, que ce soit dans Succession ou VIP, par exemple, qui ont été des gros succès de ces dernières années. Et là, on a un humour qui est très fin, qui est très intelligent, mais en étant gentil. Et c'est très désarmant et c'est très rare à la télé.
Is it safe to assume that Jamie Tartt will be back on the pitch next match?
Well, you know what they say when you assume, Trent. You make an arse out of you and me, yeah? And that right there is another example of how our English and y'all's English sometimes do not jive, isn't it? Rule number one, even though it's called girl talk, sometimes it needs to be more like girl, listen.
Et moi, les jeux de mots pourris, en fait, ça me rappelle un peu l'humour très premier degré de BoJack Horseman, par exemple. Oui. Il y a énormément de jeux de mots très cons, mais en même temps très intelligents sur le monde animalier, etc. Et je trouve que Ted Lasso réussit vraiment bien ça dans l'écriture.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à la pop culture aussi.
Oui, c'est vrai.
Surtout à la pop culture américaine.
You say that football is life, right?
Football is life.
Yeah, well then your defense is death. Oh. The only person I've seen lose a man more often is Carrie fucking Bradshaw. Oh.
Sex and the City. Shh.
Alors, on arrive au problème, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a un, mais la saison 2 est sortie récemment, on le disait, elle vient de se terminer. Et en fait, comme beaucoup de séries qui ont eu une énorme hype pour leur saison 1, la saison 2 a attiré pas mal de critiques, notamment sur Twitter, où il y a eu plein de fils de critiques qui disaient que la saison 2 était moins bonne que la première, et notamment parce qu'il n'y avait pas de conflit, que justement la série était devenue beaucoup trop gentille et qu'il n'y avait plus aucun enjeu pour les personnages. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette saison 2?
Alors déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de cette polémique? Et je pense que cette polémique est un peu, voire même très bête. Les gens commentaient la série au fur et à mesure des épisodes qui étaient diffusés, sans savoir où la saison allait aller. Mmh. Et personnellement, tout ce que j'ai vu de la saison, en fait, il n'y a pas de tension. Il y en a énormément. C'est juste que ça se dévoile au fur et à mesure des épisodes. Et au contraire, je trouve la deuxième saison beaucoup plus sombre que la première. Je trouve qu'il y a certains épisodes qui marchent beaucoup moins bien. Ils ont tenté des choses qui, moi, m'ont un peu saoulée, quoi. Mais en règle générale, enfin, je suis pas du tout d'accord avec la critique, justement, de c'est trop gentil, il n'y a pas de tension. Je pense que les gens qui ont fait cette critique ont juste vu 3 épisodes et qu'il n'y avait pas encore de tension, mais attendaient un peu, quoi.
Et je dirais que c'est plus que le conflit principal de la saison, mais du temps à se cristalliser. Et j'avoue que j'ai aussi un peu été surprise ou un peu déçue par les premiers épisodes de la saison 2. Pas parce qu'il n'y avait pas de tension, parce que comme tu le dis, en fait, il y a quand même des choses très sombres qui sont dévoilées dès le début de la saison, mais plutôt parce que pour moi, il n'y avait pas d'arc narratif apparent. Je ne savais pas du tout où ça allait et je ne comprenais pas, alors qu'au début de la saison 1, on a un arc très clair qui est-ce qu'il va réussir à rendre cette équipe de foot meilleure? Est-ce qu'il va réussir à surmonter le fait qu'il n'y connaît rien en foot? Ou est-ce que Rebecca va réussir à couler le club? Donc, il y avait quand même un enjeu qui était posé dès le début et c'est ça qui fait une bonne première saison aussi. Là, en fait, on est sur un statu quo au début de la saison et on comprend pas très bien exactement où ça va aller. Et c'est vrai que les personnages, bah, ceux qui sont en couple, ça se passe bien.
Oui, lui, il est aimé de tout le monde. Il a conquis les cœurs de tous les joueurs, donc il n'y a plus de tension à ce niveau-là.
Voilà, alors que c'est vrai que toute la première saison, il irritait tout le monde. Et là, ses blagues pourries font rire tout le monde. Donc, on sait plus trop d'où va venir la tension. Et c'est vrai qu'en fait, plus la saison avance, plus on comprend un petit peu où il veut en venir. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai été un petit peu déçue quand même par les épisodes du début. Mais je trouve que la saison arrive vraiment à rattraper tout ça dans sa deuxième partie et à cristalliser vraiment tous les enjeux principaux de la série.
Mais en fait, une fois qu'on connaît la deuxième partie, on voit aussi ce qu'ils essaient de faire au début.
Exactement.
Et pour moi, les épisodes du début, du coup, marchent beaucoup mieux. Je pense que c'est une série qui se binge plus qu'elle se savoure, comme en fait Apple la diffuse, c'est-à-dire un épisode par semaine. Je pense que ça fonctionne pas forcément très bien pour cette série. Mmh. Moi, je pense qu'il vaut mieux la regarder, attendre la fin et regarder sur un week-end. La principale tension dès le début, ou c'est pas vraiment une tension, mais c'est l'arrivée d'une psy, en fait. Parce que dès le début de la première saison, c'est le rôle que joue Ted Lasso auprès de tous ses joueurs. C'est-à-dire que c'est lui le psy officieux de l'équipe. Il est tout le temps en train de leur donner des conseils, de les réconforter, de les faire s'ouvrir. Et en fait, on découvre dans la saison 2, et on le savait déjà un peu dans la saison 1, parce qu'on a vu qu'il avait fait des crises d'angoisse. Mais là, il est confronté à ça de plus en plus et on découvre des choses sur lui et on découvre surtout qu'il a un rapport un peu ambivalent avec la psychanalyse et enfin juste la psychothérapie en général.
Et qu'il n'est pas fait pour tenir ce rôle-là de psy, en fait.
Ah bah non, pas du tout.
Il faudrait mieux que ce soit quelqu'un de compétent et de professionnel qui gère un peu ça, à la fois pour lui et pour les autres joueurs.
Oui.
Moi, il y a un truc que j'ai trouvé un peu raté au début de la saison, c'est toutes les références qui sont faites à des comédies romantiques, mais on a une experte dans ce studio des comédies romantiques, c'est toi, Marie. Et je voulais vraiment savoir, en voyant les épisodes, ce que toi, t'en avais pensé, parce qu'il y a notamment un épisode qui enchaîne les références à des rom-com cultes. Moi, j'ai pas trop trouvé que ça fonctionnait, mais j'étais vraiment curieuse de savoir si toi, t'avais trouvé ça bien.
C'est marrant parce que le côté référentiel, justement, de la série, j'ai trouvé qu'il le poussait trop loin cette saison-là. C'est-à-dire que c'est sympa d'avoir des blagues sur la pop culture de temps en temps. Mais là, en fait, vraiment, c'était un enchaînement et je trouvais ça un peu feignant parfois. Mais mon problème, c'était pas avec les comédies romantiques parce que ça, j'ai trouvé ça charmant, peut-être parce que j'adore ce genre de film. Bon, l'épisode de Noël, qui est un des épisodes qui a cristallisé le plus de critiques,
ouais.
C'est un épisode un peu un bottle épisode, c'est-à-dire que la trame est isolée du reste de la saison. Donc, il y a plusieurs intrigues autour de Noël. Et il y a un truc à la fin qui est sur Love Actually. Ça, j'ai trouvé ça mignon, honnêtement. Même si l'épisode m'a un peu saoulée parce que j'étais à on a compris, c'était un peu cucu, quoi.
J'ai quand même pleuré à la fin, hein, parce qu'ils savent quand même ce qu'ils font. Au final, ils arrivent toujours à nous émouvoir, mais c'est vrai que ça faisait un peu artificiel.
Voilà, c'est ça. Le deuxième gros épisode qui, pour moi, était un problème, c'était l'autre épisode Bottle de la saison, qui est un épisode sur Coach Beard, où là, il y a beaucoup de références aussi à des films. Et ça, ça m'a un peu saoulée parce que bon, j'étais là, bon, on a compris. Mais l'épisode, en fait, sur les comédies romantiques, moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça fonctionnait bien parce que l'enjeu principal, c'est de savoir si Roy Kent va revenir vers sa vraie passion qui est d'être un coach de football, en fait. Du coup, il y a une scène où, à la fin, il quitte un plateau télé où il était commentateur et il dit non, mais je veux pas faire ça. Et il se met à courir et il essaie d'aller au stade le plus vite possible pour arriver avant le début du match. Et ça, c'est très bien fait. Ça fonctionne super bien.
C'est très réussi. Ouais.
Hello, coach. Really glad you decided.
Shut up. Just shut up. You had me a coach.
Ça évoque quand il rencontre Sally. Il y a même une scène à un moment où on voit des spectateurs du match de foot qui racontent comment ils se sont rencontrés autour du match de foot, comme le font des couples dans Quand Harry rencontre Sally. Donc tout ça, pour moi, ça fonctionnait bien, en fait. J'ai trouvé que cet épisode, au contraire, était réussi. Après, les références répétées, au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulée, mais bon.
Moi, je me suis demandé si c'était pas un peu un cache-misère d'en recourir à autant de références comme ça, comme tu dis. Je trouvais ça un petit peu feignant. Après, je pense que quand on voit un peu l'arc narratif de la saison, qui au final montre que cette espèce de côté bisounours masque quelque chose de sombre et que c'est limite un déni, en fait, et qu'il va falloir y remédier à un moment, il va falloir confronter un petit peu tout ça. Ça m'a fait beaucoup marrer de voir un épisode de Noël en août où je me suis dit clairement, enfin, est-ce que c'est pas intentionnel aussi de dire,
oui,
là,
vrai.
Le niveau de déni est quand même hyper élevé. Vous nous faites un épisode de Noël à un moment complètement what the fuck, mais c'est justement pour attirer encore plus l'attention sur le fait que c'est démesurément cucu, mais qu'en fait, il y a quelque chose derrière si on commence à gratter un petit peu.
Quelque chose de très dark. D'ailleurs, c'est un peu la grosse tension, en fait, de cet épisode. C'est la transformation du personnage de Nate, dont on n'avait pas parlé, d'ailleurs, quand on a parlé de la première saison, là, tout à l'heure, mais qui est un personnage assez central dans la première saison. À la base, c'est celui qui s'occupe de l'équipement et de un peu nettoyer en fait les vestiaires. Il se trouve qu'on découvre très vite que c'est un petit génie du football qui connaît vachement bien les règles, et comme Ted Lasso ne connaît pas du tout les règles, il lui demande de l'aider très souvent et il finit par le promouvoir coach. Et en fait, Nate est quelqu'un qui a vraiment pas d'assurance, qui est très émouvant au début.
Il est choupi, il est maladroit.
Et oui, il est très maladroit, mais il y a toujours des moments où parfois il s'énerve ou des choses comme ça, où on voit un côté un peu plus sombre qui au début est très marrant. Parce qu'il commence à insulter les gens et on se rend compte qu'il a une espèce de verve très acérée qu'on ne lui aurait pas suspecté du tout. Et en fait, là, dans la deuxième saison, il y a vraiment un aspect beaucoup plus sombre de sa personnalité qui se révèle. On le voit à travers sa relation avec son père, qui a un impact sur lui parce que son père ne l'a jamais vraiment reconnu. Et du coup, il est en manque total de reconnaissance. Et quand il obtient enfin de la reconnaissance de la part du public, il a un sentiment de jalousie par rapport aux autres coachs. Et il devient vraiment mauvais, pour le coup. On comprend ce qui le motive et on comprend ce qui le caractérise. Mais en même temps, ça devient vraiment... le méchant de la saison.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça devient vraiment l'antagoniste principal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au tout début, dans le premier épisode, à un moment, il s'énerve contre un joueur de manière totalement injustifiée et de manière très cruelle. Et on se dit, mais qu'est-ce qui lui prend, en fait? C'est quoi son problème? Et il y a plein de petits moments comme ça dans les premiers épisodes où, comme je disais, moi, je comprenais pas un peu l'arc narratif général. Donc, je me disais, mais où ça va et pourquoi ils ont transformé Nate en connard? Et en fait, c'est vraiment fait très finement parce que plus ça évolue, plus justement, on a une étude de ce personnage qui, en fait, je vais sortir le mot... à 3 milliards, mais qui s'avère un petit peu toxique au final. Et c'est une étude encore très intéressante d'un autre type de masculinité que je pense que plein de gens pourront reconnaître, parce qu'en fait, on connaît cette personne, ce mec qui a été toujours un peu en manque de confiance en lui et qui, en fait, dès qu'il commence à accéder un tout petit peu au pouvoir, il commence à devenir supérieur et à se dire, en fait, c'est ma vengeance par rapport à toutes les fois où on m'a marché dessus, et à devenir totalement incontrôlable et à devenir plus cruel que quiconque ne l'avait été avec lui auparavant.
Ouais, c'est un peu la base des masculinistes en ligne. Il y a toute une mouvance justement d'hommes qui se déclarent rejetés par les femmes en règle générale et qui vont commencer à avoir une espèce de violence et de désir de revanche par rapport à ça, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce personnage.
Exactement, et c'est intéressant, par exemple, à un moment, pour gagner un peu confiance en lui, il demande conseil à Rebecca, la patronne foutue comme une statue grecque, qui lui dit, moi, en fait, avant de rentrer dans un endroit où j'ai peur de pas me sentir assez importante, je me grandis, en fait, au maximum, je lève les bras en l'air, et tout de suite, ça me donne un peu plus d'importance, et toi, il faut que tu trouves un peu ce qui va faire que tu vas prendre confiance en toi.
You don't need to be loud, Nathan, you just need to be commanding.
With all due respect, it's different for me, Miss Walton. You command every room you walk into.
Hardly. Have you ever been in a room full of football club chairmen?
No.
Every time I walk into one of those meetings, they look at me like some schoolgirl with pigtails. But I have a secret. I make myself big. Before I go into the room, I find somewhere private. I stand up on my tiptoes, put my arms in the air, and make myself as big as possible to feel my own power.
Fuck, you're amazing. That's Invade France.
It's a bit silly, but it works for me. Find your own thing, but don't back down, Nathan.
Et en fait, son geste qu'il trouve, c'est de cracher sur un miroir, quoi. Donc c'est extrêmement violent et c'est en plus très irrespectueux pour la personne qui va venir après nettoyer son gros crachat. Et ça en dit long, je trouve, sur ce qu'il a trouvé pour essayer de se donner confiance en lui. C'est-à-dire que le seul moyen qu'il a trouvé, c'est l'agressivité. Et c'est de tomber dans un truc très macho qu'il n'avait pas avant. Mais dès qu'il arrive à y accéder un tout petit peu, il s'enivre totalement de pouvoir.
Oui, mais c'est l'agressivité et la haine de soi aussi. Il est de moins en moins sympathique au fil des épisodes, mais on comprend quand même d'où ça vient, tout ce mal-être et cette agressivité.
Oui, c'est ça, et c'est pour ça que c'est aussi douloureux à regarder aussi, parce que c'est un personnage qu'on a appris à aimer.
Oui.
Et là, en fait, on voit une facette beaucoup plus désagréable de sa personnalité. Encore une fois, la série arrive très bien à raconter la masculinité. Là, vraiment, la grosse thématique de la saison, c'est les relations père-fils. Parce qu'il y a Nate, mais il y a aussi Ted. On apprend aussi beaucoup de choses sur sa relation avec son propre père et avec son fils. Et il y a en fait tout le fil conducteur de la saison qui est sur les pères de Jamie Tart et de Sam Obisanya, qui sont de manière très différente en fait présents dans la vie de leur fils. Et donc c'est vraiment une des grosses thématiques de la saison, c'est quel est le rapport d'un fils à son père et comment ça le construit.
Et d'ailleurs, pour revenir sur Nate, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça renverse le trope du nice guy qui, parce qu'il est gentil, mériterait en fait l'amour et l'affection de tout le monde et la reconnaissance aussi de tout le monde. Et quand il ne reçoit pas tout ça, ça justifie son agressivité. Et vraiment, le nice guy qui est friendzoné ou des choses comme ça, c'est vraiment des choses qui sont des tropes qu'on retrouve dans plein de séries et de films qui, là, je trouve, a été étudié de façon très intelligente et différente de ce que j'ai vu avant.
Exactement. J'ai un petit coup de gueule à pousser quand même.
J'ai vu ça sur le conducteur.
Sur un autre nice guy, ou en tout cas un weird guy,
ouais.
Qui est le personnage du coach Beard, donc le coach barbu, qui accompagne partout Ted Lasso et qui est un peu son bras droit et qui le comprend très bien. Où parfois, ils communiquent un peu par la pensée tous les deux et ils se complètent très, très bien.
C'est aussi un Américain qui est arrivé des États-Unis
voilà.
Et qui comprend les règles du football.
C'est ça, et qui est un petit peu excentrique, qui est très pince sans rire, en fait. Il sourit jamais.
Oui, c'est un taiseux.
Voilà, il y a un peu un fil conducteur depuis le début de la série sur ses relations amoureuses qui ont l'air très chaotiques. Et sur le fait que visiblement c'est un grand séducteur alors qu'il en a pas trop l'air comme ça.
Non.
Et la série a fait le très mauvais choix de lui consacrer un épisode entier, un épisode de 45 minutes en plus, alors qu'à la base c'est une série qui a plutôt des épisodes d'une demi-heure. Et donc on passe une soirée entière avec lui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans les séries à l'heure actuelle, surtout les séries qui ont un format comédie ou dramédie d'une demi-heure. C'est qu'en fait on fait un pas de côté, on sort de la vie des personnages principaux et on va accorder un épisode entier à la vie ou à la soirée ou à la journée d'un personnage qui n'était pas encore très bien développé. Et mon problème, c'est qu'il y a plein de séries qui le font très très bien. Par exemple, Atlanta le fait merveilleusement bien. Master of None avait un peu relancé cette mode-là en le faisant très bien. Et d'ailleurs, l'épisode Thanksgiving avait gagné un Emmy. Donc je pense que ça a donné plein d'idées aussi aux scénaristes qui se sont dit « Ah bah c'est pas mal de faire un pas de côté et de se concentrer plutôt sur un autre personnage pendant un seul épisode ». Mais en fait, il faut que les séries arrêtent de croire qu'il faut tout le temps faire ça pour être prise au sérieux, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment devenu un cliché. C'était original au départ, mais maintenant, ça l'est plus du tout. Il y avait l'épisode de Xander dans Buffy, par exemple, qui racontait quelque chose, qui nous montrait que bah, lui, il est tout le temps un peu ignoré, tout le temps un peu mis de côté, mais en fait, il peut aussi sauver le monde à sa façon. Pendant que tous les autres sont trop occupés à se battre contre l'apocalypse, lui, il est en train de se battre contre d'autres démons. Et là, en fait, le problème avec Coach Beard, c'est qu'on s'en fout de ouf. Mais vraiment, je m'en fous de sa soirée dans un club avec je sais pas qui ou je sais pas quoi. Et toutes les séries n'ont pas besoin d'avoir une séquence un peu surréaliste, un peu onirique, pour montrer qu'elles doivent être prises au sérieux aussi en termes d'écriture et de réalisation. Et vraiment, j'ai trouvé ça complètement raté.
Ma principale recommandation pour ceux qui se lancent dans Ted Lasso et qui vont regarder cette deuxième saison, c'est juste de ne pas regarder cet épisode, en fait.
Ouais, complètement.
Parce que ça ne sert à rien, ça n'avance l'intrigue en rien, et c'est 45 minutes juste très très laborieuses. Et avec beaucoup, je disais tout à l'heure, de références. Il y a une référence à Orange Mécanique. On sent qu'ils se font plaisir au niveau de l'écriture, mais moi, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à le regarder.
Ouais, et au final, c'est vraiment pas ce que je considérerais comme l'épisode le mieux écrit, mais du tout.
Ah non, pas du tout.
Et en fait, on sent que c'est juste une tentative de faire quelque chose d'un peu plus hors des clous, un peu plus artistique. Mais en fait, il faut que les séries comprennent aussi qu'il y a des personnages secondaires qui sont secondaires pour une raison. C'est-à-dire qu'ils sont parfaits pour venir ponctuer un épisode avec quelques scènes, quelques répliques. Ce qui fonctionne hyper bien avec le personnage de Beard, c'est que justement, il est mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'il fait dans sa vie, on ne sait pas trop comment il fonctionne. Et il est là pour être un peu bizarre, pour être un peu en décalage par rapport au reste du casting. Donc, on n'a pas besoin d'en savoir plus sur sa vie. J'ai pas besoin de savoir ce qu'il fait de ses soirées, en fait. Enfin, c'est totalement inintéressant. Et c'est vrai qu'il y a d'autres séries qui ont essayé de faire ça à chaque fois pour dire, ah, bah, tel personnage qui est un fan favorite qu'on n'a jamais développé, on va lui consacrer un épisode en entier. Mais peut-être que si vous l'avez jamais développé, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il ne peut pas endosser le poids d'un épisode entier sur lui, quoi.
Bravo. Bien dit. Et donc, si vous voulez l'éviter, c'est l'épisode 9 de la saison 2.
Pour finir sur une petite note aussi légère que l'est la série Ted Lasso, on va faire un petit jeu, Marie, qui n'est pas du tout inspiré par nos vies respectives.
Mon Dieu.
Mais en gros, si tu devais choisir le coloc idéal parmi les personnages de Ted Lasso, qui tu choisirais?
Bon, si je devais
Roy Kent, parce que tu as couché avec lui.
Non, si je voulais faire ma vie avec quelqu'un, ce serait Roy Kent, mais il est très poilu et je veux pas vivre en coloc avec quelqu'un d'aussi poilu et partager une salle de bain avec quelqu'un d'aussi poilu, parce que ils en parlent d'ailleurs, c'est une blague récurrente, mais il laisse beaucoup de poils dans le siphon de la douche. Et juste...
Il dit qu'on dirait qu'un rat s'est coincé dans le siphon et s'est noyé ou je sais pas quoi.
Voilà, donc ça me dit trop rien en tant que coloc, quoi. Et puis c'est jamais bon d'être à fond sur son coloc en plus, donc
c'est
voilà.
Vrai.
Non, je pense que ce serait Sam, probablement, qui est vraiment un des personnages les plus gentils, les plus polis, les plus respectueux et les plus matures de cette série. Et c'est tout ce que je veux d'un coloc, en fait. Donc,
c'est clair.
Et qui, en plus, a l'air sympa.
Et en plus, il est hyper mignon dans cette saison. Ils l'ont un peu développé aussi. On n'en a pas parlé, mais au début de la saison 2, je me disais, il n'y a plus de tension romantique, donc ça ne m'intéresse plus. Et la série Ted Lasso a quand même réussi à trouver un petit moyen d'injecter encore un petit peu de tension. Sam est très, très charmant dans cette saison 2.
Ce serait Sam ou Killy aussi. J'aimerais bien Killy. Elle est très sympa quand même.
Moi, j'allais dire Killy, effectivement, parce qu'en plus, il y a toute une sous-intrigue dans la saison 2 sur le fait qu'elle aime bien avoir son espace parfois et qu'elle a besoin qu'on la laisse tranquille. Ouais, grave. Et alors qu'elle dit ça à Roy Kent, qui est son mec et dont elle est folle amoureuse, mais elle lui dit vraiment, en fait, on passe tout notre temps ensemble. Il y a des moments où j'ai besoin d'être seule. Et j'étais là, mais oui, c'est une coloc comme ça que je veux.
Par contre, pas Ted Lasso, quoi. Il serait épuisant. Franchement, si je connaissais Ted Lasso dans la vraie vie, je pense que je pourrais pas le saquer.
Il est juste trop optimiste tout le temps.
Ah
et c'est un peu fatigant. Il a l'air d'être un peu bordélique aussi quand on voit son appart, clairement, parce qu'il fait quand même des cakes tous les matins.
Tu sens que c'est sombre à l'intérieur, quoi. Toute cette joie de vivre cache beaucoup de choses très, très sombres. Et du coup,
c'est ça.
Au quotidien, ça doit être un peu lourd, quoi.
On n'a pas parlé quand même de Danny Rojas.
Oh, je l'adore.
Football is life.
Danny, il vient d'Amérique latine. Il adore le football. Il est tout le temps en train de crier football is life,
football is life.
Donc le football, c'est la vie, et de courir partout avec un sourire béat, et c'est vraiment le mec le plus sympa et enthousiaste, encore plus enthousiaste encore que Ted Lasso, parce que tu sens que lui, il n'y a rien derrière.
Ouais, c'est ça, exactement. Lui, il n'y a pas de profondeur, en fait. Il est juste comme ça tout le temps, et il y a un gag très très drôle à un moment où il doit porter des chaussures en cuir un peu habillé pour un événement particulier, et il souffre le martyr parce qu'il n'a jamais porté autre chose que des baskets, et on sent que c'est vraiment compliqué pour lui.
Il y a un autre gag avec un footballeur qui, lui, vient de Hollande, et qui...
Oui, Yann Mas, voilà. Je l'adore.
Il ne comprend pas trop l'ironie, et il dit dit toujours les choses. Il est beaucoup trop honnête, en fait.
Il ne sait pas dire quoi que ce soit de gentil, en fait. Ouais. Et donc, encore une fois, il tombe très bien sur le spectre de on a des gens beaucoup trop gentils ou beaucoup trop enthousiastes comme Danny ou comme Ted Lasso. Et lui, en fait, tout ce qu'il dit est hyper cruel. Mais on sent que c'est pas parce qu'il le pense méchamment, c'est
non,
vraiment
c'est
parce
qu'il est hollandais.
Voilà, c'est ça. Non, mais vraiment. Et lui, je sais pas si j'aimerais l'avoir comme coloc.
Ah non, putain, non, ça va, quoi.
C'est genre si t'as pas jeté un yaourt avant la date de péremption.
Rebecca, je veux bien parce qu'elle est très riche. Donc si c'est elle qui paye le loyer, je peux vivre chez elle. Et en plus, elle a l'air propre et sympa. Enfin, elle a une femme de ménage, quoi.
C'est vrai. Et elle a une super garde-robe si tu veux lui piquer certains sacs.
Je sais pas si on aura la même taille. Mais oui, les sacs, ça va.
Bah, les sacs, les foulards, les chaussures. Bon, bah voilà, on s'est constitué notre petite coloc parfaite. C'était Pic TV, merci Marie.
Merci Anaïs.
Et merci les Pickies pour votre écoute et vos retours enthousiastes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on parlera de Fleabag. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et une petite déclaration d'amour sur votre appli de podcast préférée. Salut.
Salut.